France Info. Tout est politique. Jean-François Aquili.
Bonsoir. Une enquête du parquet national financier qui vise le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Le groupe Accor qui lorgne sur la participation de l'État dans Air France, du moins ce qu'il en reste. Les migrants décidément au cœur du débat européen et la réforme de l'audiovisuel public en marche. On en parle dans Tout est politique sur France Info jusqu'à 22h, en même temps à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir Adrien Taquet. Vous êtes député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Invité également Stéphane Peu, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue. Député PCF de Seine-Saint-Denis. Simon Souni est bon, élu sous le label également de la France Insoumise. Hein.
Vous avez les deux. J'avais le soutien des deux.
Les deux soutiens.
Communiste et France Insoumise.
Avec nous également, bonsoir Jordan Bardella.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du tout nouveau Rassemblement National, il faut dire comme ça désormais. Vous êtes aussi le responsable pour la jeunesse de ce qui va s'appeler
Génération Nation dans une quinzaine de jours.
Voilà. Et à mes côtés, mon ami, mon complice, Gilles Bornstein de France Info. Bonsoir Gilles.
Salut Jean-François.
Vos réactions sur Twitter, hashtag TEP. Il est sans doute le haut fonctionnaire le plus puissant de France, c'est du moins ce que dit le journal Le Monde. Il pilote en tous les cas le cœur du réacteur de la Macronie. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est visé par une plainte de l'association Anticor. Une enquête est ouverte par le parquet national financier. Elle vise des soupçons, il s'agit de soupçons de conflit d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC, la Mediterranean Shipping Company, un géant des croisières et client important des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Le secrétaire général de l'Élysée est d'ailleurs parent avec la famille italienne qui a fondé et possède MSC, c'est ce que révèle Mediapart. Il a même travaillé un temps pour l'armateur, d'où ses soupçons. Écoutez tout d'abord les arguments de l'avocat d'Anticor, Jean-Baptiste Souffron, puis la réponse de Christophe Castaner, le ministre des Relations avec le Parlement sur Public Sénat.
Ce qui est reproché à M. Kohler, c'est le mélange des genres entre d'un côté ses postes au sein de l'État et de l'autre côté la société de sa famille, la société Mediterranean Shipping Company MSC.
Alors je ne qualifie Kohler. Pas d'affaire le fait qu'une structure Anticor, qui est habituée à cela, multiplie des initiatives et les perd souvent. Donc ne qualifions pas d'affaire cela. Si Anticor a un doute sur un quelconque sujet, il est normal qu'elle puisse saisir la justice. Je ne sais pas quel est l'objet de la plainte d'Anticor, mais donc voilà, il est normal dans ce pays qu'on puisse enquêter, examiner sur tous les sujets. Mais attention à ce qu'une plainte déposée sur des sujets qu'on ne connaît pas ne devienne pas une affaire politique.
Adrien Taquet, mélange des genres.
Et sur cette affaire, je vais être très clair, ça va se résumer en trois points. Le premier point, c'est que j'ai pas pour habitude de commenter des enquêtes en cours. Le second point, c'est que je vais le faire quand même, parce que je pense qu'il faut quand même sortir de l'ère du soupçon généralisé. Christophe ouais. Castaner l'a très bien évoqué. Il semblerait que Monsieur Kohler se soit déporté sur l'ensemble des sujets, des dossiers qui pouvaient avoir trait à MSC lorsqu'il était en fonction, que sa hiérarchie était au courant des liens
familiaux.
Déporté, excusez-moi, ça voulait dire qu'il ne traitait pas de ces affaires-là, que c'était d'autres fonctionnaires au sein, notamment du ministère de l'Économie et des Finances, qui avaient trait à ces sujets-là. Et que jamais cette compagnie, ni pendant qu'il était en fonction, ni depuis qu'il y est revenu, cette compagnie n'a pu être avantagée d'une façon ou d'une autre. Et puis troisième point, pour le connaître un peu personnellement, moi je n'ai pas le moindre doute sur l'éthique et personnelle et professionnelle d'Alexis Kohler.
Stéphane Peu, est-ce que c'est une situation gênante ?
Oui, elle est gênante et j'ai envie de dire au-delà d'Alexis Kohler et de l'instruction qui est en cours. Anticor a déposé plainte, le parquet national financier.
Je ne crois pas que ce soit encore une instruction. Moi. Je crois que c'est
une enquête.
Pas totalement, on n'en est pas au stade de
l'enquête.
D'accord, enfin bon, on est jusqu'à présent dans une procédure sur le plan judiciaire assez classique. Mais ce qui pose problème, c'est que vous avez dans ce pays une élite technocratique qui vit dans l'entre-soi et qui s'est habitué au pantouflage, aux allers-retours entre des salaires dans le public et des fonctions dans le public très grassement payées et des allers-retours dans le privé avec, forcément, je ne parle pas de M. Koller en particulier, mais avec un risque d'avoir des conflits d'intérêts en permanence. Et il y a des conflits d'intérêts en permanence. Alors, à l'automne, il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale sur le sujet et on avait essayé, nous, de faire des propositions pour arrêter ce pantouflage et arrêter ce mélange des genres qui se fait parfois au détriment de l'intérêt public. Et malheureusement, le gouvernement, pourtant tout récent, plein de promesses sur la transparence et l'éthique, s'était refusé à avancer dans ce sens. Et tant qu'on ne légiférera pas de manière plus ferme sur le sujet, on continuera d'avoir des mélanges des genres et des gens qui vont passer dans le privé, vont aller dans
c'est
le
grave,
public.
Ça. Enfin, vous pensez que quand
oui, c'est grave.
Vous pensez que quand on est fonctionnaire, on a vocation à l'être jusqu'à la fin de sa vie, que quand on travaille dans le privé, on a vocation à l'être jusqu'à la fin de sa vie, et qu'à aucun moment les deux mondes. Je ne parle pas d'Alexis Koller, je ne sais pas ce qui lui est reproché. Voilà. Et vous pensez que les deux mondes n'ont pas vocation à s'enrichir l'un l'autre ?
Si, mais alors s'enrichir.
Au sens
oui,
moral, enfin,
d'accord.
Vous m'avez compris.
Oui, mais parfois, ça
absolument,
peut être pris
dans
un autre sens. Mais non,
vous ne pensez pas qu'on est un meilleur fonctionnaire quand on a été dans le privé et qu'on est meilleur dans le privé quand on sait un peu comment fonctionne l'État ?
Oui, mais il faut des règles. Voilà.
Absolument.
Il faut des règles. Moi,
elles existent.
La proposition, elle existe. Arrêter.
Non.
Tout à l'heure, vous avez dit, on veut arrêter.
J'ai été très rapide dans mon explication, mais l'amendement à la loi que nous avions déposé était un amendement qui n'interdisait pas, mais qui mettait des règles pour que les choses, cette consanguinité ou ce mélange des genres ne se fasse pas dans des délais trop rapprochés et dans des fonctions qui s'interfèrent. Parce que c'est pas la même chose d'avoir été préfet et puis ensuite d'aller travailler dans un club de vacances ou dans une société de club de vacances que d'être au ministère de l'économie, de faire la politique fiscale de telle activité ou telle branche industrielle et ensuite de travailler dans cette branche industrielle.
Je suis désolé, ces règles, elles existent et pour les fonctionnaires qui partent dans le privé et pour les gens du privé, comme moi, par exemple, qui arrive à des fonctions électives à l'Assemblée nationale. Il y a une commission de déontologie qui rend un avis dans lequel les autorités sont tenues.
Qui avait refusé d'ailleurs un poste à
Alexis Koller. Donc les règles existent, une commission existe. Et de la même façon, vous le savez très bien.
La commission existe, mais les règles n'existent pas.
Si, les règles existent. Un fonctionnaire ne peut pas aller dans un poste privé s'il y a un risque de conflit d'intérêt. Et par ailleurs, vous le savez très bien, à l'Assemblée nationale, vous, comme moi, sommes soumis aussi à des règles de transparence et de déport s'il y a un quelconque risque de conflit d'intérêt.
Et nous entendrons votre avis, hein, Jordan Bardella, juste après le rappel de l'info à 21h10 sur France Info, avec vous, Diane Ferschit.
Le groupe français PSA prépare son retrait d'Iran. Il annonce avoir commencé à suspendre certaines de ses activités pour échapper à des sanctions de la part des États-Unis. Après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire, l'Iran constitue pourtant le premier marché étranger en volume de PSA. La direction de Carrefour a écarté une offre de reprise pour 152 ex-magasins Dia. C'est une information France Info, une offre qui aurait concerné entre 1300 et 1500 salariés. Elle n'a pas été évoquée lors du CCE ce matin. Carrefour a annoncé que seuls 29 magasins Dia sur 272 allait être repris. La Société Générale solde pour plus d'un milliard d'euros deux litiges qu'il a poursuivaient depuis plusieurs années. La banque a annoncé des accords de principe pour mettre fin à des enquêtes, celles sur des soupçons de corruption avec le fonds souverain libyen et celles sur des manipulations du taux interbancaire Libor. Fin de la chaîne France 4 sur la TNT, rapprochement entre France 3 et France Bleu pour renforcer les programmes régionaux. La ministre de la Culture a présenté les grandes lignes de la réforme de l'audiovisuel public. C'était un engagement d'Emmanuel Macron. Elle prévoit dans un premier temps de se concentrer sur le numérique, une réforme qui a pour objet de faire entre 250 et 500 millions d'euros d'économies d'ici 2022. À Roland-Garros, il n'y a plus de Français en compétition ce soir. La dernière représentante tricolore, Caroline Garcia, s'est inclinée face à l'Allemande Angélique Kerber. Serena Williams, elle a déclaré forfait. Elle devait affronter Maria Sharapova en 8e de finale du tournoi. Chez les hommes, Rafael Nadal accède au quart de finale.
France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Jordan Bardella, vous diriez mélange des genres comme l'avocat d'Anticor ou bien il n'y a pas d'affaire comme l'a dit M. Castaner.
Je vous répondrai que j'attends la décision de justice et la suite de l'enquête. Je pense qu'on ne peut pas faire de commentaires de manière hâtive et M. Koller a en tout cas le droit à la présomption d'innocence. Alors le mélange des genres ne me pose aucun problème à partir du moment où il y a des exigences de transparence et je pense qu'en cela elles doivent être beaucoup plus strictes. Maintenant sur l'affaire en elle-même, moi ça me fait doucement sourire de voir La République En Marche prendre les pieds dans le tapis, qui appelle systématiquement à la moralisation de la vie politique. Ça a été vrai pendant la présidentielle et c'est vrai depuis le début de ce quinquennat. Donc voilà, je veux dire maintenant, s'agissant de l'enquête, nous verrons.
Vous ne pouvez pas dire présomption d'innocence d'un côté.
Adrien Taquet.
De l'autre.
Non, mais voilà, mais vous êtes touché par un certain nombre d'affaires et un certain nombre d'accusations légitimes ou non, fondées ou non. C'est la justice qui le décidera.
Absolument.
Comme évidemment tous les acteurs de la vie politique.
Absolument.
Allez, l'État va-t-il céder ce qui lui reste d'Air France? Accord hôtel lorgne sur ses 14,3% du capital restant. Accord qui pourrait du coup déverser, pourquoi pas, les passagers des avions directement dans ses hôtels et l'État se séparerait ainsi de ce qui fut l'un de ses fleurons, définitivement donc. Pourtant, cette hypothèse n'était pas à l'ordre du jour encore récemment. Voici tour à tour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'était il y a une quinzaine de jours au grand rendez-vous d'Europe 1. Et changement de discours aujourd'hui avec sa secrétaire d'État, Delphine Gény-Stéphane, sur le site Boursorama.
C'est pas du tout à l'ordre du jour. Vous voyez bien que lorsqu'une entreprise traverse une crise, et Air France traverse une crise, c'est pas le bon moment pour prendre ce genre de décision.
Le gouvernement est ouvert sur le principe dès lors que il y a une discussion entre les deux entreprises qui fait apparaître un projet industriel qui tient la route et qui crée de la valeur pour les entreprises. L'État aura son mot à dire et participera en effet en tant qu'actionnaire, dans son rôle d'actionnaire, à la décision stratégique.
Adrien Taquet, changement de discours en si peu de temps, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, écoutez, pour l'instant, rien n'est fait, ni sur le fond, ni sur les modalités éventuelles de cession, voire peut-être d'échange d'ailleurs, d'action, puisque Accor est aussi un fleuron dans le domaine des services.
Ça sera de l'échange, si j'ai bien compris.
Bon, pour l'instant, aucune. Je crois que les modalités ne sont pas du tout arrêtées. Je pense qu'on n'en est même pas là. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien envisager que l'État rentre dans cet nouvel ensemble constitué. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, ce sont deux acteurs qui sont sur deux marchés ultra compétitifs,
oui.
Les compagnies aériennes d'un côté et le secteur du tourisme et l'hôtellerie de l'autre, et que ça a du sens. Il y a un projet industriel derrière. À rapprocher et à intégrer.
On n'a pas l'impression que l'État va se séparer, se débarrasser, si je puis dire, d'Air France. C'est quand même un dossier compliqué à chaque fois.
On ne se débarrasse pas d'Air France. On sait qu'Air France, quand même, son capital est ouvert depuis un certain temps. Donc on est quand même loin de la présence de l'État telle qu'elle a pu l'être il y a un certain nombre d'années. On est maintenant dans un marché concurrentiel, ultra concurrentiel. Et je pense que c'est intéressant d'envisager le projet industriel qu'il y a derrière.
Stéphane Peu, sur ce dossier, on a vu qu'il y avait quand même des conflits sociaux à répétition au sein de la compagnie aérienne.
Moi, j'ai envie de dire, je proposerais bien au gouvernement de faire un référendum des salariés d'Air France sur le sujet. Pour leur demander leur avis. Ça a été fait récemment avec le succès qu'on connaît. Non, plus sérieusement, moi je mets en parallèle cette annonce qui est quand même un peu cafouilleuse, hein, et ça fait deux fois en 15 jours qu'autour des déclarations de Bruno Le Maire, il y a des contradictions avec les autres ministres du gouvernement. Ça a été le cas sur les aides sociales avec Darmanin. Là, c'est le cas sur Air France avec une secrétaire d'État. Donc, je sais pas ce qui se passe autour de Bruno Le Maire, mais tout ça me paraît un peu bizarre. Non, moi, ce que j'observe, c'est que, envisager de céder les parts de l'État dans Air France, qui reste une compagnie aérienne et qui reste d'un enjeu stratégique pour notre pays et pour son développement. Et en même temps, c'est le cas de le dire, envisager de céder les parts de l'État à Aéroports de Paris, parce qu'il faut mettre les deux en parallèle. Vous avez un hub qui est Roissy, par exemple, que nous connaissons bien dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui risque, en privatisant totalement Aéroports de Paris et puis en retirant les participations de l'État dans Air France, qui risque de ramener Air France au rang d'un client comme les autres du hub de Roissy. Et moi, je pense que du point de vue de l'intérêt national, sachant que Roissy et les aéroports de Paris, c'est une frontière de notre pays. C'est des enjeux stratégiques. C'est un enjeu de sécurité intérieure.
L'État n'en a que 15%, donc la majorité.
D'Air France, mais pas d'aéroports de Paris. Mais je mets les deux en parallèle, parce que forcément, si Air France est un client comme un autre et qui doit être mis en concurrence avec les sociétés low cost pour avoir des droits de tirage...
Alors vous dites que c'est trop stratégique, il faut que l'État garde la main sur et à la fois la France,
la main sur l'aéroport de Paris et un œil, un doigt, si je puis dire, dans le capital d'Air France, qui est une compagnie nationale et qui participe du rayonnement de la France.
Jordan Bardella, l'État a vocation à conserver ces 15 petits pourcents, moins de ça d'ailleurs, d'Air France.
Je crois que oui, évidemment, à partir du moment où cette entreprise représente un intérêt stratégique pour le pays, je crois qu'elle doit, l'État doit rester au capital d'Air France. Toutes les grandes puissances dans le monde soutiennent massivement leurs compagnies aériennes. C'est vrai avec les compagnies asiatiques, c'est vrai avec les compagnies du Golfe. Et en fait, c'est un vaste sujet que celui de l'État qui se désengage progressivement de ses secteurs stratégiques. On l'a vu avec les chantiers navals, on l'a vu avec Alstom il y a quelques mois, pour lequel les gouvernants n'ont strictement rien fait. Donc le véritable sujet, c'est le désengagement de l'État de ses propres fleurons industriels, le délitement total de nos entreprises stratégiques depuis maintenant 40 ans, et on paye là la mondialisation sauvage, ultra-libérale et incontrôlée. Air France, par ailleurs, mis en concurrence avec des compagnies aériennes qui bénéficient d'avantages sociaux, notamment beaucoup plus intéressants. Donc voilà, maintenant, le bénéfice d'exploitation d'Air France a quand même augmenté de 42% l'an dernier. Donc,
Gilles Bernstein. C'est contradictoire, parce qu'on sait qu'il y a les compagnies du Golfe qui bénéficient d'avantages énormes parce que justement elles sont adossées à des États et que elles ce sont réellement des compagnies d'État. Donc
C'est vrai. Maintenant, vous avez quand même alors pour une fois que l'Union européenne sert à quelque chose, on peut peut-être le souligner, mais vous avez quand même une directive européenne qui contraint en grande partie les compagnies aériennes à bénéficier d'un minimum de capital qui soit détenu par des entreprises européennes.
Adrien Taquet, il y a peut-être un risque aussi de voir d'autres compagnies, Delta Airlines, China Eastern, qui ont des parts dans Air France. Je crois que c'est de l'ordre de 17%. Aller peut-être plus loin et voir Air France, au fond, disparaître avec armes et bagages à l'étranger, peut-être, non ?
Il y a ce risque-là, quand même. C'est pas de ça dont on parle pour l'instant, puisque l'idée, c'est plutôt de se diriger vers un fleuron, on peut dire ça comme ça, du tourisme international avec le rapprochement. Il faut encore, c'est pertinent en termes d'intégration, le rapprochement de deux grandes entreprises du tourisme mondial. Donc moi, j'ai plutôt tendance, d'une part, à dire qu'il faut quand même bien s'interroger, vous parlez de fleuron stratégique, à bien s'interroger quand même sur ce que doit être l'État stratège demain, parce que la gestion d'un aéroport, quand bien même c'est une frontière, je suis pas sûr que la gestion d'un aéroport, ça fait partie des fonctions stratégiques d'un État, et que par ailleurs,
il n'y a pas plus stratégique qu'un aéroport aujourd'hui.
Il y a des choses plus stratégiques, je pense. Et que par ailleurs, ça peut redonner un nouveau souffle à cette nouvelle entité. Une fois encore, quand bien même on arriverait là, parce que je pense qu'on n'en est pas encore là.
Allez, 21h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
Après l'Union européenne, le Mexique annonce ce soir qu'il va à son tour porter plainte contre les États-Unis auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Dans sa ligne de mire, les taxes sur l'acier et l'aluminium mises en place la semaine dernière par Donald Trump. Ces taxes devraient être au centre des discussions au G7 qui se tient au Canada en fin de semaine. Et dans le dossier iranien, le constructeur automobile français PSA annonce qu'il prépare son retrait d'Iran face aux menaces de sanctions américaines. Il dit avoir suspendu certaines de ses activités sur place. Après le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis menacent de sanctionner les entreprises occidentales qui continuerait à travailler avec Téhéran au-delà du 6 août prochain. Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire sur Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, à la suite d'une plainte de l'association de lutte anticorruption Anticor. Cette enquête vise des soupçons de conflit d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. 15 premiers projets agricoles régularisés à Notre-Dame-des-Landes. Des occupants de la ZAD ont signé des baux courant jusqu'à la fin de l'année. Ils concernent quelques 1650 hectares au total, une avancée considérable selon la préfète des Pays de la Loire. Les porteurs de projets sont venus en personne signer les conventions d'occupation. L'audition de Lafarge qui devait se tenir demain devant les juges d'instruction est reportée. Le PDG de la holding actionnaire de la filiale syrienne mise en cause a démissionné. Le groupe est suspecté de financement du terrorisme en Syrie. Lafarge s'est toutefois engagé à honorer sa convocation devant la justice d'ici la fin du mois.
France Info. 21h-22h, tout est politique, Jean-François Aquili.
Alors vous le savez, le Sénat s'apprête à voter demain donc la réforme ferroviaire. L'affaire est-elle pliée en ce qui concerne la SNCF? Et Emmanuel Macron a-t-il remporté, on le dit de cette façon, le premier set de son quinquennat? Les réformes vont se poursuivre, comme le rappelait Hervé Berville, député de La République En Marche des Côtes d'Armor. Il était votre invité, Gilles Bernstein, de l'Instant Politique sur France Info.
On a une mission qui est de mettre en œuvre un certain nombre d'engagements, de transformer ce pays, de faire en sorte qu'il y ait de la mobilité sociale dans ce pays. Et je pense que on a quand même 4 magnifiques années encore devant nous. Il y a encore beaucoup de boulot. On le voit sur un certain nombre de sujets, sur le social, l'apprentissage là qui arrive, la réforme de la formation professionnelle, les 15 milliards qu'on a sur la table. Donc mon engagement en tout cas est celui de tout le groupe et de La République En Marche, et de continuer à poursuivre, parce qu'il y a des urgences sur le terrain, sur le chômage, sur les jeunes à l'international, et on doit poursuivre ce travail-là de transformation.
Stéphane Peu, vous voyez la réforme de la SNCF, vous voyez ce que dit ce député qui est porte-parole du groupe La République En Marche, est-ce qu'il n'y a pas eu de convergence sociale finalement? Vous n'avez pas l'impression que ça ne prend pas?
Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que...
C'est une question. Hein.
Pardon. Depuis le début, j'entends le gouvernement dire qu'il n'y a pas d'unité syndicale à la SNCF. Depuis le début, il y a de multiples tentatives pour fracturer le front syndical à la SNCF, notamment entre la CFDT et l'UNSA d'un côté, la CGT et Sud de l'autre. Et depuis le début, et encore aujourd'hui, toutes ces tentatives de division du front syndical à la SNCF ont échoué. Et tous les appels à la grève qui continuent sont des appels à la grève des quatre grandes centrales syndicales représentatives à la SNCF, plus un vote des salariés de la SNCF qui a été sans appel, du point de vue de la participation et du point de vue de son résultat. Mmh. Et donc, moi, je ne crois pas que je crois que le gouvernement ferait une faute de considérer qu'en ayant le vote favorable de l'Assemblée et du Sénat, il est quitte et qu'il a un feu vert pour cette réforme, alors que...
Pour vous, ça ne signifie pas partie gagnée pour le gouvernement?
Non, je ne crois pas. Je c'est pas moi qui, comme parlementaire, mettrait en cause la souveraineté démocratique des assemblées et de la loi. Simplement, quand on fait des réformes de ce type, on ne peut pas les faire contre les salariés d'une grande entreprise comme la SNCF, qui quand même sont des gens extrêmement attachés à la mission qui est la leur, extrêmement conscients des enjeux stratégiques d'avenir pour la SNCF, et qui ont une parole qui doit être entendue. Pour l'instant, elle ne l'a pas été, puisqu'il y a eu des concertations, certes, mais comme à chaque fois, concertation ne veut pas dire négociation, et il y a eu zéro négociation, en dépit des heures passées à écouter les uns ou les autres.
Alors Adrien Taquet, vous jouez l'opinion contre les grévistes dans cette réforme?
On ne joue pas du tout l'opinion contre les grévistes. Moi, je ne parle pas en termes de match, de bataille ou d'opposition entre le gouvernement et les syndicats. Je crois qu'il y a une méthode qui est employée depuis le début par ce gouvernement, qui est celui du diagnostic, de la concertation, où il y a de vraies négociations qui ont lieu, et puis de la décision, in fine, qui est la responsabilité de l'exécutif et de la majorité qui le soutient. Moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre que le conflit... continue. La concurrence, l'ouverture à la concurrence, c'était quelque chose qui était acté, qui a été quand même étalé dans le temps, puisque c'est effectivement pour le TGV dès l'année prochaine, mais pour les TER, les lignes régionales, ça va être repoussé jusqu'à 2023, voire 2033.
C'était une catastrophe pour le fret ferroviaire.
La question de la fin du statut pour les nouveaux entrants, ça a été discutée.
Pour vous, il n'y a plus de sujet, quoi.
En tout cas, tous les sujets ont été mis sur la table. Il y a eu des choses qui ont été, qui ont fait l'objet de négociations. Ce qu'on a appelé le sac à dos social pour les fonctionnaires qui aujourd'hui bénéficient du statut, c'est une garantie. Il y avait de gros questionnements sur la question de la dette. Nous y avons répondu.
Il n'y a plus de sujet, donc.
C'est ce aujourd'hui, que je pense qu'effectivement, on est arrivé au bout de la concertation.
Jordan Bardella du Rassemblement National, c'est une affaire pliée, la SNCF?
En tout cas, c'est un peu mal engagé s'agissant de la contestation sociale. Alors moi, qu'on soit très clair, nous étions totalement opposés à cette réforme qui visait notamment à ouvrir effectivement à la concurrence les lignes ferroviaires. L'ouverture à la concurrence a été testée en Grande-Bretagne, c'était absolument catastrophique. L'état du rail est dans un état lamentable. Le prix du billet a augmenté de près de 120% ces 20 dernières années. Et encore une fois, ouvrir à la concurrence, ça veut dire intégrer une logique de rentabilité. Et qui dit logique de rentabilité, dit opposition totale avec cette logique de proximité, de service public, d'intérêt général qui est normalement celle d'une entreprise d'intérêt public. Et évidemment, les territoires ruraux vont en pâtir, et les territoires les plus en recul du pays vont en pâtir. Maintenant, je ne suis pas non plus pour cette logique de blocage. Je pense que ces blocages embêtent un grand nombre de nos compatriotes aujourd'hui, et qu'il faut maintenant que tout cela cesse, partant du constat que la bataille se joue dans les hémicycles et dans les urnes.
Il faut arrêter de comparer avec la Grande-Bretagne, parce que là, la comparaison n'est pas bonne. En Grande-Bretagne, ça a été une privatisation de la compagnie. En France, sur demande notamment de l'opposition et des syndicats, la question de l'incessibilité de la SNCF a été inscrite dans la loi. Donc,
Stéphane Peu.
Oui, enfin, oui. C'est, bon, on ah l'a. Bah, oui. Non, mais.
C'est important et qu'on le souhaite.
Oui, mais après, vous savez, quand il y a eu le problème, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de privatisations dans ce pays ces dernières années. Et donc, on peut prendre du recul et essayer de les évaluer. Ce qui n'a d'ailleurs pas été fait s'agissant de cette loi. Regardez ce qui s'est passé avec Gaz de France. Il y avait aussi incessibilité, mais de regroupement en regroupement, de mouvement d'actionnariat en mouvement d'actionnariat, vous pouvez conserver l'incessibilité des titres et finalement être absorbé par des holdings qui s'ouvrant à des capitaux, enfin, et on fait la privatisation par voie de succès. Donc c'est pas une garantie absolue. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'on regarde l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. C'est une catastrophe. C'est un recul du point de vue du Grenelle de l'environnement. Ça a remis des camions sur les routes. Ça a baissé le nombre de marchandises qui circulent par rail. Donc, ne répétons pas les erreurs et ne répétons pas les réformes qui ont échoué.
21h28 sur France Info, la météo, le journal. Et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Tout est politique.
Si je te dis porte blindée, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
Et jusqu'au 9 juin, c'est le mois de la sécurité dans les 220 magasins Point fort fichier. Tu peux profiter de remises jusqu'à 700 € sur les portes blindées fichier.
Porte, fenêtre, garage, volet, alarme. Tu peux sécuriser toute ta maison avec les produits Point fort fichier certifiés contre les fractions. Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
International. Malakka, à l'est de Gaza, est une plaine de sable vide, occupée seulement par quelques ambulances et des journalistes. Il n'y a pas de mobilisation.
Économie. La réunion s'est tenue à huis clos, à l'écart des journalistes. Impossible de connaître les noms des entreprises conviées à Bercy. Elles ne veulent pas de publicité, souffle un conseiller.
Culture. Les mémoires à l'écriture classique, minutieuse, c'est la Simone de Beauvoir, chroniqueuse au long cours et très précise de sa vie qui a été choisie par la Pléiade.
Pour l'info, 24 heures sur 24, France Info. Deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Encore beaucoup d'orages ce soir, ils seront toujours forts localement de la Bretagne à la Normandie et jusqu'en Île-de-France, de la Bourgogne à la Franche-Comté en remontant vers le sud de la Lorraine et de l'Alsace. Attention, les cumuls de pluie seront parfois importants, ces orages vont perdre de leur activité au fil des heures. Demain matin, la situation s'annonce plus calme sous un ciel souvent nuageux, à noter de belles éclaircies dans le nord-est. Les orages reviendront en force dès la mi-journée dans la plupart des régions, ils seront une nouvelle fois violents, des Pays de Loire à la Bourgogne en passant par la région centre, de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes et jusque vers l'Occitanie, les littoraux devront être épargnés, ainsi que la région Grand Est et les Hauts-de-France. Côté température, les minimales seront douces et comprises entre 12 et 18 degrés, les maximales entre 17 et 30 degrés d'ouest en est.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 21h30, toute l'info avec vous. Bonsoir François Lepage.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. De nombreux magasins de proximité Carrefour vont bientôt mettre la clé sous la porte des commerces rachetés à Dia en 2014. Les offres de reprise reçues étaient présentées aujourd'hui au syndicat en comité central d'entreprise et elles sont bien peu nombreuses, Guillaume Gaven.
29 magasins seulement vont être repris sur les 272 dont Carrefour veut se débarrasser. Carrefour qui a annoncé tout à l'heure en CCE avoir reçu 400 marques d'intérêt pour 200 magasins et qui donc n'en a pas beaucoup retenu. Ce qui fait d'ailleurs dire à certains syndicats que la direction n'a pas déployé beaucoup d'efforts, qu'elle n'a rien fait pour se créer une nouvelle concurrence. 29 magasins repris, ça va concerner 195 salariés. 89 autres ont déjà été reclassés en interne sans même attendre le lancement du plan social. Reste donc 1800 salariés qui attendent désormais d'en savoir plus sur leur avenir. La direction s'est engagée, une fois que le plan social aura été validé par l'inspection du travail d'ici la fin du mois, à proposer deux offres de reclassement en interne et une à l'extérieur. Les fermetures des magasins proprement dites interviendront pendant la première quinzaine de juillet.
Et Guillaume Gaven, après un week-end déjà très arrosé pour une large moitié du pays, 17 départements sont en vigilance orange ce soir dans le nord-ouest et le nord-est. D'intenses précipitations sont attendues jusque dans la nuit, des Côtes d'Armor jusqu'à la Sarthe et de l'Aube jusqu'au Haut-Rhin. Dans le Haut-Rhin, justement, une partie de l'autoroute A36 a été coupée ce soir entre Mulhouse et Belfort en raison de forts orages, de très fortes pluies, inondations également en Ille-et-Vilaine dans plusieurs communes du pays de Vitré. Pas de Big Bang, mais des pistes pour relancer un média jeunesse notamment, ou encore renforcer les programmes régionaux. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, présentait ce matin son scénario d'anticipation pour l'audiovisuel public. La chaîne France 4 va disparaître de la TNT pour être diffusée sur Internet. France 3 devra tripler ses programmes régionaux et se rapprocher de France Bleu, les radios locales de Radio France. C'était la dernière chance française à Roland-Garros. Caroline Garcia battue en huitième de finale par Angélique Kerber en 2-7, 6-2, 6-3. L'Allemande affrontera l'actuelle numéro 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep. De vente aux enchères d'importance aujourd'hui à Paris, une insolite d'abord, plus de 2 millions d'euros pour un squelette de dinosaure. L'acheteur, un Français, souhaite rester anonyme. Il promet que le fossile sera visible et exposé en France. Et puis plus classique cette fois, un tableau de Van Gogh peint au début de sa carrière est parti ce soir à plus de 7 millions d'euros. Une première depuis plus de 20 ans. Raccommodeuse de filets dans les dunes, c'est le nom du tableau, était à la base estimé entre 3 et 5 millions d'euros. 21h33 sur France Info, la suite de Tout est politique. C'est avec Jean-François Akili.
Tout est politique, Jean-François Akili.
La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités, Adrien Taquet, député La République En Marche des Hauts-de-Seine, Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement National et responsable des jeunes, Génération Nation, et Gilles Bornstein de France Info. Changement de ton en Italie au sujet des migrants. Les clandestins doivent faire leur valise. La planque, c'est fini, a scandé ce week-end Matteo Salvini, le tout nouveau ministre de l'Intérieur italien et accessoirement patron du mouvement d'extrême droite, la Ligue. Il va falloir pourtant travailler avec l'Italie sur la question. C'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron, qui recevait son homologue nigérien Mamadou Issoufou.
Nous ne parviendrons à régler le sujet des grandes migrations contemporaines qu'en œuvrant ensemble à la protection des frontières de l'Europe, au rapprochement de nos droits d'asile et de nos règles, et que dans la coopération au sein de l'Union européenne et tout particulièrement de l'espace Schengen. C'est dans cet esprit-là que je souhaite continuer à avancer avec l'Italie.
Jordan Bardella, on peut travailler avec nos voisins italiens de la Ligue désormais là-dessus, sur ces questions?
C'est pas moi qui vais vous dire, vous dire le contraire, puisque la Ligue est un mouvement allié du Rassemblement National désormais au Parlement européen depuis un certain nombre d'années.
Parce que le propos est plus musclé quand même chez Salvini.
Oui, enfin maintenant qu'il est au pouvoir, il va pouvoir passer à l'action. Je pense que l'Italie connaît une submersion migratoire absolument insoutenable, de la même manière que nous la connaissons en France. La volonté de l'Union européenne est de continuer d'accueillir beaucoup plus, puisque la Commission européenne a proposé il y a quelques mois de subventionner directement les États pour qu'ils accueillent des migrants, et menaçant en même temps ceux qui ne souhaitaient plus en accueillir de sanctions et d'amendes. Donc je crois que c'est une bonne chose. Je crois que le courant d'idées que nous incarnons en France arrive au pouvoir en réalité en Italie. C'est le cas en Italie, mais c'est aussi vrai dans un certain nombre de pays en Europe, en Autriche, en Hongrie, et puis dans un certain nombre d'autres pays. Je crois que les Français et les Européens, d'une manière générale, souhaitent dire stop à cette submersion migratoire qu'ils vivent et qui pose tout un tas de problèmes économiques et de communautarisme notamment.
Stéphane Peu, que dites-vous ce soir sur la question ?
Moi, je suis profondément attristé et choqué des premières déclarations du ministre italien, parce que
et Matteo Salvini,
parce que vous avez d'un côté de la Méditerranée des passeurs, des trafiquants, des esclavagistes, et de l'autre côté des murs à la fois d'incompréhension et des murs pour empêcher d'accoster. Donc on va faire de la Méditerranée un tombeau encore plus grand. On a encore vu hier 50 morts de plus dans un bateau, bateau qui a échoué en Méditerranée. Et ce que je voudrais qu'on comprenne un jour, c'est qu'on puisse s'interroger sur ces questions en pensant autrement que les migrants, ils font pas du shopping, ils font pas du benchmarking, ils sauvent leur peau, ils essayent juste de vivre en être humain sur cette planète Terre. Alors je ne suis pas un angélique, je ne pense pas qu'il faille faire n'importe quoi avec les politiques migratoires, mais on ne peut pas s'en sortir en disant on se barricade derrière nos frontières et le reste, on veut pas le savoir, quitte à faire mourir par centaines des milliers d'êtres humains qui cherchent juste à survivre dans leur pays.
Moi, je crois qu'en réalité, les responsables de ces dégâts dans et de ces drames que nous vivons en Méditerranée, c'est vous, c'est les personnes qui incitaient systématiquement à l'immigration massive et qui organisaient cet appel d'air en faisant de notre pays un pays extrêmement attractif. Oui, il y a des gens qui viennent en France pour profiter de notre système de protection sociale et qui considèrent que la France est un guichet social. Pardonnez-moi, mais nous avons quand même 90% d'hommes parmi ces migrants. Ce sont essentiellement des réfugiés économiques qui ne fuient pas la guerre, qui fuient peut-être des situations extrêmement compliquées. Nous avons quand même contribué à créer en déstabilisant un certain nombre de pays, mais il faut quand même rétablir un certain nombre de vérités. Nous sommes tous deux, monsieur Peu, élus, et nous avons tous les deux grandi à Saint-Denis, et moi je vois les dégâts de l'immigration massive et le problème de communautarisme que ça apporte dans un certain nombre de quartiers, où un certain nombre de nos compatriotes qui sont là depuis un certain nombre d'années fuient ces quartiers parce qu'ils sont submergés, qu'ils ne peuvent plus vivre en paix chez eux.
Adrien Taquet, est-ce qu'on peut travailler avec monsieur Salvini, qui d'ailleurs veut fermer les ports italiens et demain veut revenir sur ce qu'on appelle le statut des Dublinés? Est-ce qu'on peut, comme l'a dit le chef de l'État, il fait de la diplomatie aussi, travailler au quotidien avec eux?
Écoutez, moi je crois que les murs, ils sont avant tout dans la tête d'un certain nombre de personnes, et que dresser des murs, ça n'a jamais...
Des portes, pas des murs.
Dresser des murs, ça n'a jamais
dans la caricature.
Empêché de... Non, c'est plutôt vous qui l'êtes... au regard de vos propos, ça n'a jamais empêché des gens de venir. D'ailleurs, il y a ces deux enclaves, Ceuta et Melilla, ces deux enclaves espagnoles sur le territoire marocain, où sur 12 kilomètres, on a dressé des murs de 7 mètres de haut et des barbelés. Ça n'a jamais empêché personne de passer. Non, moi, ce que je voudrais dire, il faut admettre que l'Europe a failli sur ce sujet-là.
Est-ce que c'est pas
l'Europe a failli vis-à-vis... Non, mais il faut se dire, il faut être pragmatique et essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Et ces solutions ne peuvent être que collectives, pas chacun dans son coin. On a failli vis-à-vis de l'Italie et on a failli vis-à-vis de la Grèce auparavant. Donc la réponse, moi j'en suis convaincu et c'est le sens du message du président de la République, elle ne peut être qu'européenne. Il l'avait dès son discours à Strasbourg il y a quelques semaines, le 17 avril de mémoire, énoncer ce fait et proposer la création d'une agence ou d'un programme, quelle qu'en soit la forme, européenne, pour justement gérer les flux. Non, Frontex, c'est uniquement les questions de sécurité. Ça gère pas du tout. Non,
ça gère
pas du tout. Ça gère pas du tout l'intégralité de la problématique. Donc la réponse, elle est européenne, plus d'Europe, plus coordonnée.
Pour l'instant, ça fonctionne pas. Hein.
Plus solidaire, mais parce que pour l'instant, on n'a pas les outils pour le faire.
Ce qui s'est passé en Italie est en grande partie une faillite de l'Europe sur cette question. Mmh. Ça, c'est évident. Et je regrette qu'entre le discours d'Emmanuel Macron en Allemagne, au mois de juin dernier, où il avait dit des choses qui étaient plutôt prometteuses sur le fait que la France allait s'investir dans l'évolution des règles européennes et de ses propres règles sur l'accueil des réfugiés. Et le débat qu'on a eu et la loi qui a été votée sur asile et immigration, il y a un fossé béant entre les mots et les actes. Mais moi, ce que je pense, sur la règle de Dublin, elle ne peut pas tenir. Elle peut pas tenir. Parce que, à partir du moment où il y a des réfugiés, je parle là des demandeurs d'asile, ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut
ils
pas comprendre.
Ils sont pas expulsés quand l'asile est rejeté.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, à ne pas avoir de solidarité européenne pour accueillir ces personnes de manière équitable entre les pays en fonction de leurs capacités, et en laissant les seuls pays frontaliers de la Méditerranée
en assumant
la responsabilité, on crée la situation italienne.
Gilles Bernstein. Voilà, c'est assez compliqué de forcer nos partenaires.
Oui, mais
partenaires qui ne sont pas la Hongrie, la Pologne, je ne sais pas si c'est des partenaires, des adversaires, je ne sais pas comment faut dire, mais voilà.
Enfin, s'il s'agit de régler la politique migratoire avec l'Autriche, la Hongrie et l'Italie, moi, ça me pose aucun problème, parce qu'en l'occurrence, les positions qui sont les leurs sont des positions de fermeté. Et ce qu'il faudrait faire, c'est faire exactement comme a fait l'Australie, en développant des campagnes de publicité, notamment dans les pays d'origine, en traitant l'asile dans les pays d'origine.
Ils ont parqué dans des îles.
Et vous verrez. Mmh. Et vous, non, ils ont fait des campagnes.
Ils ont
fait des campagnes.
Ils ont parqué dans des îles.
Ils ont pas parqué dans des îles. Il y a zéro mort aux rives de l'Australie. Donc voilà, je veux dire, c'est une politique qui fonctionne. Et ce qu'il faut, c'est traiter les demandes d'asile dans le pays d'origine, parce que aujourd'hui, nous avons passé en 2017, la barre des 100 000 demandes d'asile, c'est un record absolu. 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés et demeurent évidemment à la charge de la collectivité nationale et de nos compatriotes qui n'ont plus les moyens aujourd'hui d'en accueillir.
Allez, on va poursuivre dans un instant. 21h41 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
Un accord qui pourrait atteindre plus d'un milliard d'euros. La Société Générale a accepté de régler cette somme pour résoudre deux litiges en France et aux États-Unis. La banque était notamment poursuivie pour des soupçons de transactions illicites avec le fonds souverain libyen. Elle n'en a toutefois pas fini avec la justice américaine et le fisc français. Le premier volet de la réforme de l'audiovisuel public présenté par la ministre de la Culture. La chaîne France 4 va disparaître du canal 14 de la TNT. Elle devrait prendre une nouvelle forme sur Internet. Françoise Nyssen demande à France Télévisions de se recentrer sur des programmes régionaux avec des contenus communs entre France 3 et France Bleu. Depuis plus de 3 semaines, Mayotte est confrontée à une multitude de séismes, pas moins de 25 secousses rien qu'aujourd'hui. Pas de dégâts importants pour l'instant, mais des bâtiments commencent à se fissurer. Certaines salles de classe ont été fermées à titre préventif par la préfecture. Emmanuel Macron et Donald Trump pourraient se voir en tête-à-tête en marge du G7, un G7 au Canada en fin de semaine dont le principal sujet sera la guerre commerciale entre Washington et ses partenaires, guerre qui concerne les taxes sur l'acier. Et après l'Union européenne, le Mexique annonce ce soir sa volonté de porter plainte contre les États-Unis auprès de l'Organisation mondiale du commerce. La marque Monsanto va disparaître, annonce du groupe allemand Bayer qui est en train de racheter le géant américain des OGM. Il compte boucler ce rachat jeudi. Bayer veut se débarrasser d'un nom synonyme pour ses détracteurs des dérives de l'agrochimie, mais il conservera néanmoins ses produits phares, dont l'herbicide au glyphosate Roundup.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Oui, puisque nous évoquions l'Union européenne, les grandes manœuvres ont déjà commencé en vue des élections de l'an prochain, avec déjà bien une fin de non-recevoir de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui refuse la main tendue de Marine Le Pen. Il l'a redit sur Europe 1 ce matin.
J'ai dit non à la proposition de Marine Le Pen parce que je pense qu'elle mettait la charrue avant les bœufs. Moi, je prépare un projet avec des alliés et je dis à Marine Le Pen qu'elle travaille et puis on se reverra. Je dis la même chose d'ailleurs à Laurent Wauquiez car je veux qu'on aille beaucoup plus large que le tête-à-tête avec Marine Le Pen.
Ça tombe bien là. Jordan Bardella, il vous a claqué la porte au nez, dit Nicolas Dupont-Aignan.
Ah non, je crois que vous n'avez pas entendu la fin de sa citation. Il a dit « Nous allons travailler sur un projet commun et nous revoir dans quelques temps ». La réalité, c'est que Nicolas Dupont-Aignan, depuis un an, appelle à la constitution d'une liste commune dans le cadre de ces élections européennes. Moi, je crois que si nous faisons une liste d'union, nous pouvons gagner ces élections européennes. Nous sommes aujourd'hui crédités aux alentours de 20% dans les derniers sondages, notamment sur le sondage Elabe.
Quand vous dites « nous ».
Nicolas Dupont-Aignan, le Rassemblement National, 19,5% dans le dernier sondage Elabe qui est paru la semaine dernière. Nicolas Dupont-Aignan aux alentours de 5, La République En Marche est à 24, donc moi je ne suis pas dans les arrangements de boutique, mais vu la recomposition de la vie politique française aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a deux camps, soit je pense en fait que ces élections européennes, si vous voulez, doivent être un référendum pour ou contre l'Union européenne. Si vous êtes favorable à cette Union européenne telle qu'elle se construit, de la dérégulation, de l'ouverture totale des frontières, de l'immigration massive, qui est celle de M. Macron, eh bien vous pourrez voter pour la liste En Marche. Si en revanche, vous souhaitez une Europe de la régulation, une Europe qui défende, qui protège les intérêts nationaux et les identités des peuples, eh bien vous aurez l'occasion d'exprimer cette voix par le bulletin de vote Rassemblement National. Et partant du constat que nous sommes le pôle majoritaire, nous souhaitons tendre la main évidemment à tous ceux qui croient aujourd'hui dans la France. Je pense que nous avons un projet commun avec Nicolas Dupont-Aignan, pour la simple raison qu'il souhaitait d'ailleurs mettre le Premier ministre de Marine Le Pen en cas de victoire à la présidentielle.
Mais vous le savez, il va vous dire oui.
Mais écoutez, nous verrons. Enfin, je veux dire, nous sommes à un an des élections européennes. Nous allons avoir un certain nombre, et même si je le savais, d'ailleurs, je ne vous le dirai pas, mais nous allons avoir un certain nombre de discussions en interne avec Nicolas Dupont-Aignan, mais également avec d'autres personnes, notamment issues des Républicains. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une recomposition de la vie politique et nous tendons évidemment la main à tous ceux qui croient dans cette Europe. Alors, des nations et des libertés qui s'incarnent en Italie, en Autriche et dans un certain nombre d'autres pays européens où le courant d'idées que nous représentons est au pouvoir.
Alors il y a l'autre scénario, celui qui vous concerne, Stéphane Peu, puisque le Parti communiste désigne Yann Brossa, premier adjoint d'Anne Hidalgo, comme tête de liste aux européennes. C'est un peu le divorce d'avec Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il fait cavalier seul le PCF là-dessus.
Non, c'est pas la décision qui a été prise hier. La décision, c'était de désigner notre chef de file, notre tête de liste, tout en disant que, bien évidemment, on souhaitait le rassemblement, parce que avec d'autres. Voilà, donc il va y avoir des discussions.
Derrière Yann Brossa.
Non, Yann Brossa étant vous désignez votre chef de file pour les élections européennes, puis après vous discutez.
Vous voulez le rassemblement avec qui?
Ben moi, pour ce qui me concerne, je souhaite le rassemblement avec la France Insoumise. Je pense que c'est important. Les convergences sont quand même très larges sur le sujet. Et puis moi, je crois qu'il faut surtout pas faire la fine bouche. Quand vous avez un président comme Emmanuel Macron qui est en train de casser la République sociale, de casser tous les modèles sociaux de notre pays, qui est en train de faire de la France un pays qui est en train de copier des modèles économiques qui sont souvent tout le contraire de ce qu'a été son histoire et qui est en train d'introduire dans ce pays un libéralisme qu'on a connu dans d'autres pays européens. Je pense qu'il n'y a pas trois, il n'y a pas deux camps comme disait Bardella, mais il y en a trois. Il y a le projet européen et libéral de Monsieur Macron, un projet de repli nationaliste, et puis il y a le projet d'avoir une Europe plus solidaire et plus basée sur les services.
En l'occurrence, dans les sondages, il y en a deux. Il y a le Parti En Marche qui arrive en tête et puis qui arrive juste derrière.
Pierre Laurent dans Le Parisien ce matin, je le cite, il explique que la France insoumise ne fait pas le compte seul à gauche. Il est un peu sec avec vous, avec Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression qu'il y a quand même un petit sujet là. Ça ne se mixe pas bien tout ça.
Oui, il y a deux chefs qui ont un peu du mal à se parler. Mais mais nous à l'Assemblée nationale,
bien le reconnaître quand même.
Oui, je viens de le faire. Donc je constate que effectivement, et je le regrette, qu'ils ont un peu de mal à se parler. Mais bon, vous savez, tant pis. Si eux se parlent pas, nous on va se parler entre députés à l'Assemblée nationale, entre militants dans les villes et les campagnes. Et puis à un moment donné, l'aspiration. Parce que je crois surtout que, en dépit des attitudes des uns et des autres, ce que je crois surtout, c'est que personne ne peut aujourd'hui prendre la responsabilité d'émietter une gauche qui est déjà extrêmement affaiblie depuis l'élection présidentielle face à un pouvoir qui a clairement, enfin, Monsieur Castaner aujourd'hui a fait une déclaration en disant on ouvre la possibilité de faire des alliances avec les Républicains pour les municipales, peut-être même pour les européennes. Donc on savait que la politique de ce gouvernement était de droite. On sait depuis ce matin que politiquement, c'est le camp choisi par Emmanuel Macron. Bon, voilà.
Que répondez-vous à ça, Adrien Taquet ?
Bah, écoutez, il y a beaucoup de choses. Moi, je n'adhère pas du tout à la proposition que j'ai à ma droite, qui pour moi n'est pas du tout l'Europe du respect des nations. C'est l'Europe du repli, chez soi et de la régression. Moi, écoutez, pas du tout.
C'est vous qui êtes au manette, c'est vous qui êtes au pouvoir.
Écoutez,
c'est vous qui avez 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres dans le pays.
On a depuis un an, depuis la campagne présidentielle, réinvesti le discours sur l'Europe. On a, vous le savez, organisé une grande marche sur l'Europe. On a poussé discours, 250... Hein. Non, mais c'est pas les discours, c'est une réalité.
On a
poussé 250 000 postes dans le cadre de cette grande marche pour l'Europe qui a été un succès et qui était passionnante et qui a montré en quoi les gens avaient envie. Les gens ont envie de croire en l'Europe et savent ce que l'Europe peut apporter pour notre pays et pour leur situation individuelle.
À chaque fois qu'on a demandé l'avis des Français sur l'Union européenne, ils l'ont rejeté. Ça, c'est vrai qu'au référendum en 2005 et c'était en 2014, comme nous sommes arrivés en tête.
Vous verrez ce qu'il en est l'année prochaine. Sur les deux pôles, écoutez, moi, je n'ai pas à commenter ce qui se passe.
Ils sont très eurosceptiques dans l'opinion, deux courants d'opinion très forts en France aujourd'hui.
Écoutez, on verra ce qu'il en est l'année prochaine. Nous, on est prêts à endosser un discours volontariste sur l'Europe parce qu'on est convaincus que la France ne peut pas vivre sans l'Europe dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Après, sur la partie gauche, moi, je vous l'ai dit, hein, moi, je... Peut-être pas émietter la gauche. Moi, je trouve, à l'Assemblée nationale, vous parlez peut-être, moi, je trouve qu'il y a une vraie différence, si je peux me permettre, et elle est plutôt à votre avantage, entre les députés GDR, du Parti communiste, et les députés de France insoumise. Et je trouve que...
Faites
attention. Ben, moi, je vois des députés communistes avec lesquels je ne partage pas la plupart des idées, mais qui sont travailleurs, qui, pour la plupart, ont été des élus locaux, qui connaissent leur dossier, qui connaissent les situations locales. Pas raisonnable, sérieux, face à des gens qui sont plutôt dans la posture. Voilà. Et moi, je dis simplement que vous auriez tout intérêt
à laisser
trop aspiré par les postures des autres qui sont loin de ce que, non, de mais ce
la,
que vous êtes.
La question, c'est des questions d'espace. C'est des questions d'espace politique. À partir du moment et d'identité politique, à partir du moment où vous avez un gouvernement qui clairement sur sa politique économique, mais maintenant de plus en plus dans ses choix politiques, s'affiche comme un gouvernement à la fois libéral et de droite. Et moi, j'aspire, et je sais que la situation n'est pas facile, et qu'on part de loin, et qu'on est très affaibli, mais j'aspire à ce que la gauche se réinvente, se rassemble, et offre une perspective de changement à la population de ce pays, parce qu'aujourd'hui, elle est dans une impasse.
Rassurez-moi, la gauche ne se résume pas à France Insoumise. Ouais.
La réalité, c'est que vous n'avez plus aucun argument aujourd'hui pour défendre votre modèle d'Union européenne qui ne fonctionne pas. C'est l'Europe de la société ouverte, qui incite à l'immigration massive, qui interdit de faire patriotisme économique, de protéger l'emploi, et qui est celle de la désindustrialisation. C'est maintenant, le point de divergence majeure qu'on a avec la France insoumise, c'est évidemment la question migratoire, puisqu'ils sont des immigrationnistes BA. Nous partons des réalités. Nous savons les tensions communautaristes qu'il y a dans le pays.
Le serpent se mord la queue pas mal sur cette question-là entre les conservatismes des blancs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'en dépit de votre changement de nom ce week-end, en fait, le fond des idées est toujours là.
Exactement. 21h51 sur France Info. Le retour de l'info avec vous, Diane Ferschit.
Le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, visé par une enquête préliminaire du parquet national financier, enquête sur des soupçons de conflit d'intérêts. L'association anticorruption Anticor a porté plainte contre le secrétaire général de l'Élysée. Elle pointe du doigt les conditions dans lesquelles Alexis Kohler a exercé ses fonctions publiques en France, tout en ayant des liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Le groupe français PSA prépare son retrait d'Iran. Il annonce avoir commencé à suspendre certaines de ses activités pour échapper à des sanctions de la part des États-Unis après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Arabie Saoudite a commencé à délivrer des permis de conduire à des femmes. Le décret doit entrer en vigueur dans 3 semaines. Le roi Salman l'avait annoncé en septembre dernier. Le royaume ultra-conservateur était le dernier pays au monde à interdire aux femmes de prendre le volant. Les préparatifs du sommet entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se passent bien, indique ce soir la Maison-Blanche. Les deux dirigeants se rencontreront le 12 juin à 9h à Singapour. Singapour qui a délimité une zone spéciale au cœur de son territoire en vue de cette rencontre historique. Les orages encore très présents sur la France. Ce soir, 14 départements de l'Ouest et de l'Est sont en vigilance orange. De la Mayenne à l'Eure-et-Loire et de Lyon au Haut-Rhin. Le Haut-Rhin où la circulation a dû être coupée ce soir sur une partie de l'autoroute A36 en raison de coulées d'eau boueuse.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Diane Ferschit le rappelait tout à l'heure, Françoise Nyssen a donc dévoilé ce matin ce que sera dans les grandes lignes la réforme de l'audiovisuel public. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait de la déclaration de la ministre de la Culture.
Notre service public audiovisuel va réaffirmer sa différence pour devenir un média engagé, engagé pour les citoyens, engagé pour les valeurs de la République, engagé dans la vie de la cité, un média à l'image de notre société qui parle à tous, mais aussi qui parle de tous. Un média qui ose la création d'autre part, qui ose se lancer dans des formats inédits, qui mise sur des écritures originales, décalées, inattendues. Un média, enfin, qui anticipe les usages liés aux mutations technologiques et les modes de diffusion à venir.
Donc on va... Gilles Bornstein, oui. Les premières annonces concernent plus les structures que les équipes.
Voilà, je dirais ça comme ça. Pour l'instant, c'est ce qui ne fait pas trop mal. C'est vrai que passer France 4 d'un canal dans le poste, si je puis dire, dans la télé, un canal numérique, ben voilà, on change de tuyau. Ouais. Plus de programmes régionaux sur France 3, tout le monde va être d'accord. Plus de numérisation, tout le monde va être d'accord. Sur l'énoncé des principes, plus de numérique, plus de coopération entre nos différentes chaînes, tout le monde est d'accord. Plus de soutien à la création, tout le monde est d'accord. Voilà, donc pour l'instant, on sent que c'est plutôt la pommade. Avant, peut-être les remèdes plus douloureux viendront. La ministre a dit le modèle social devra être réformé. C'est assez clair. Chez les députés marcheurs, on verra ce que dit Adrien Taquet, mais on ne se cache pas pour dire que oui, voilà, il faut réformer un peu le social à France Télévisions, qu'il y a trop de monde. On verra ce que ça donnera lors de l'examen de la loi, mais disons que pour l'instant, c'est la partie la plus facile, j'ai l'impression.
Adrien Taquet, vous entendez ce que dit Gilles Bornstein. On n'en sait pas grand-chose là de précis aujourd'hui.
Non, mais écoutez, moi je trouve que là, je vais parler en face du micro, je pense que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, les retraites par exemple, on prend le sujet par la question du sens, dans un premier temps. Et on n'attaque pas par les considérations de gouvernance ou budgétaires. Je pense que c'est ça la vraie question. Les questions de gouvernance budgétaire, elles doivent venir en conclusion de tout ça. C'est pas nouveau qu'on s'interroge sur le sens du service public audiovisuel. Ça fait quand même 20 ou 30 ans. Quelle est la différenciation? Qu'est-ce que c'est un service public audiovisuel? En quoi il se différencie de l'offre commerciale?
J'ai pas dit l'inverse.
Voilà, non, je dis pas l'inverse. Non, mais vous dire, voilà, on prend les choses par le sens. Voilà, il y a un vrai sujet de différenciation. Il y a une société qui évolue. Vous l'avez évoqué, la délinéarisation de la télé. Les jeunes dont on sait qu'ils sont complètement absents des chaînes du service public parce que ce n'est plus leur façon de
fonctionner. Donc l'environnement change. Ça, c'est pour le sens,
pour l'instant,
du dur.
Bah, pour l'instant, ce que je vois, c'est que dans la définition de ce qu'est un service public de proximité, il y a trois grandes valeurs qui ont été définies. Il y a la question de la proximité, de l'information et du débat d'idées. Ça, ça me semble assez bien collé à ce que doit être un service public de l'audiovisuel. Et puis, il y a la question de l'éducation. Et donc, il y a effectivement des premières conclusions qui en sont tirées. Vous l'avez évoqué, le rapprochement probablement de France Bleu et de France 3.
Ça a bien compris, les grandes lignes.
Hein, oui. Bon, ben voilà. Écoutez,
ouais, Stéphane Peu.
Ouais, c'est très étonnant parce que moi, j'ai une approche, mais alors, exactement.
Opposée.
Non, mais, enfin, c'est pas l'approche, j'ai lu la conférence de presse de la ministre ce matin à l'inverse. C'est-à-dire que je m'attendais, moi, je pense qu'il faut une réforme. Je pense qu'il faut bouger. Je suis pas du tout un partisan du statu quo, ni dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres. Mais par contre, je n'ai vu aucune vision. Je n'ai vu aucun projet. Je n'ai pas vu une grande direction de modernisation de l'audiovisuel public, d'adaptation à la numérisation. Par contre, j'ai vu une chose, c'est un chiffre. Entre 200 et 500 millions d'euros d'économies.
Il y a deux chiffres qui ont été donnés.
Mais,
il y a sacralisation de la création,
il était
investissement
de
120 millions d'euros dans le numérique.
En filigrane du discours, qu'en fait, on a retenu qu'il y avait quand même surtout un dispositif austéritaire et pas de vision de la réforme d'audiovisuel public.
Il reste très peu de temps. Jordan Bardella, vous êtes jeune par définition. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de la réforme ?
Pas grand-chose. C'est flou, comme d'habitude, avec La République En Marche. On n'y comprend pas grand-chose. J'ai retenu deux choses. Premièrement, faire émerger des médias engagés. Bon, je pense que les médias sont suffisamment engagés et partisans pour cela. Vous me parlez de différence entre le service privé et le service public. Il y a peut-être une différence. C'est peut-être que le service public pourrait s'astreindre un peu plus de neutralité. Or, quand le temps d'antenne du Rassemblement National est de 2,8%, sur le mois de janvier, service public, 2,8% du temps d'antenne politique, au mois de janvier, nous représentons un tiers quand nous
voulez que je vous donne le mien.
2,8%, les chiffres sont clairs, 2,8%. Et puis la dernière phrase, c'est criminaliser les Français en disant qu'ils sont hautement réactionnaires. Ça veut dire peut-être voir un peu moins de mal blanc depuis 50 ans, comme l'a sous-entendu Delphine Ernotte du service public. Ce boboïsme est insupportable.
Merci. Merci Jordan Bardella, merci Stéphane Peu, merci Adrien
Taquet
et Gilles Bornstein. On poursuivra, je vous rassure, dans les jours qui viennent sur ce débat. À demain pour une toute nouvelle édition de Tout est politique sur France Info.